Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Durabilité et maintenant qu'est-ce qu'on fait ? C'est le dernier podcast de l'année, le dernier podcast avant Noël et quoi de mieux qu'un cadeau de Noël puisque normalement c'est un podcast qui se fait à 1 et 2 et là aujourd'hui j'ai la chance d'avoir 3 invités pour parler de la même entreprise. On va parler de la start-up qui n'est plus une start-up maintenant, qui développe comme entreprise sur le canton de Vaud à Lausanne, qui s'appelle Compare. Je ne sais pas si c'est allemand comme nom, mais c'est en deux mots qui sont mis ensemble. Donc on va parler évidemment aujourd'hui de composite et de composants en compagnie de nos trois invités qui travaillent tous les trois pour cette entreprise. Alors on va rapidement les présenter. Eleanor Wild, bonjour.
Bonjour, ravi d'être là aujourd'hui.
Donc toi tu es responsable de la durabilité hein, au sein de tes sustainability manager il me semble au sein de cette entreprise.
Exactement, je fais partie de l'équipe R&D et voilà, mon rôle c'est un peu de faire en sorte que les activités de l'entreprise soient alignées avec notre mission et notre vision.
Ensuite on a également Cecilia Scazzoli, donc comme son nom l'indique, qui est d'origine italienne. Bonjour Cecilia.
Ouais, bonjour.
Merci de faire l'effort de parler en français. Tu progresses chaque jour un peu, mais donc tu viens à la base de la région de Milan, c'est ça à la base, non ?
C'est ça, pas trop loin. Une heure de route vers le sud de Milan. Ça s'appelle, c'est une petite ville qui s'appelle Cremona.
D'accord. Et donc toi, tu as fait des études d'ingénieur aussi à l'EPFL ? En partie ?
J'ai fait la plupart de mes études à Milano et puis je suis arrivée en Suisse pour faire ma thèse de master à l'EPFL et c'est comme ça que tout a commencé.
Et donc tu es ingénieur, on spécialise des composants, des composites, c'est pour ça que tu travailles dans le département R&D pour cette entreprise.
C'est ça justement, donc je suis responsable d'une certaine partie de recherche et développement et donc dans la plupart de mon temps, je m'occupe de tout ce qui est développement de nouveaux produits.
Pour parler justement de la technologie qu'il y a derrière avec toi, on est ravis de t'avoir. Et enfin, dernière invitée, Robin Triguera. Bonjour Robin.
Bonjour.
Donc du coup, toi tu es CTO de l'entreprise. Alors qu'est-ce que c'est ? Quelle est ta fonction ? Et puis est-ce que tu peux la présenter rapidement pour les auditeurs ?
Alors comme Eleonore et Cecilia, je suis ingénieur en sciences des matériaux. Et mon rôle en tant que CTO, c'est de m'occuper de chapeauter tout ce qui est le développement technique et technologique de l'entreprise.
Est-ce que tu peux nous présenter cette entreprise, qu'est-ce que c'est ? Voilà, en quelques mots, qu'est-ce que c'est cette entreprise Compare pour qu'on constitue rapidement, en quelques minutes, qu'est-ce que c'est cette entreprise ? Quel est le but ? Qu'est-ce que vous développez ? Et un peu son historique. Hein.
Alors, si on démarre sur l'historique, les matériaux, c'est les choses qui nous entourent au quotidien, il y en a partout autour de nous. Depuis toujours, on a essayé de plus ou moins répliquer ce qu'on trouve dans la nature. On a construit des matériaux de plus en plus performants. Et là, on atteint un certain plateau un peu au niveau des performances, etc. Donc on pousse un peu plus loin l'inspiration qu'on a de la nature, c'est-à-dire qu'on essaye maintenant d'ajouter de nouvelles fonctionnalités aux matériaux. Par exemple, dans la nature, dans notre corps, tout simplement, on a de multiples capacités de cicatrisation, de régénération. On se casse un os, il y a un processus de calcification qui se passe et on récupère la fonctionnalité de nos os après ce processus-là. Pareil lorsqu'on se coupe et qu'on cicatrise.
C'est ce que vous essayez de faire avec cette entreprise Compare.
Exactement, c'est de mettre sur le marché des matériaux qui soient performants au niveau mécanique, c'est-à-dire qui soient solides, légers, rigides, mais qui en même temps et une capacité de cicatrisation.
Ça fait combien de temps après que vous êtes actif depuis, on va dire, le processus, le noyau, le début à l'EPFL, et puis maintenant, bah là, justement, dans ce développement que vous avez actuellement ?
La cicatrisation dans les matériaux composites, c'est un sujet relativement neuf, mais pas si neuf que ça, étant donné que ça fait quand même 2 décennies qu'il y a des recherches qui se planchent là-dessus. Et mon associé, Amel Coad, a fait sa thèse de doctorat justement sur ce sujet-là. Une thèse qui a bien marché, avec de bonnes propriétés cicatrisation. Par contre, les propriétés mécaniques faisaient qu'on ne pouvait pas en envisager un usage commercial à la fin de son doctorat. Il y a eu du travail qui a été fait ensuite et c'est à ce moment-là que j'ai rejoint, le projet Compare avant que finalement on incorpore l'entreprise en janvier 2020 et qu'on sorte des laboratoires de l'EPFL pour venir s'installer à Renan.
La première question que j'ai envie de poser à notre ingénieur de formation, quand on parle de composite, voilà, qu'est-ce que c'est un composite ? Qu'est-ce qu'on entend par là ? Et est-ce qu'il y a des exemples d'utilisation dans des produits de la vie courante que tu peux donner ? Mais voilà, concrètement, d'un point de vue technique, qu'est-ce que c'est un composite dans des matériaux ? Voilà.
Donc, en général, si on dit le mot composite, on a en tête une association de 2 matériaux différents, donc qui peut être très variée. Souvent, donc, disons, le but d'associer ces 2 matériaux, c'est valoriser les points positifs de chaque matériau et donc avoir à la fin un matériau qui soit très léger, mais aussi très performant. Donc souvent, une des associations la plus commune, c'est associer donc, tout ce qui est matière polymère, donc de matière plastique.
Des plastiques, dérivés du plastique.
Voilà, qu'on appelle aussi donc, résine ou matrice, avec des fibres qui sont appelées aussi renforts. Donc tout à fait similaire aux tissus qu'on a dans les vêtements.
Ah, des textiles en fait.
Voilà, exactement des textiles, juste un peu spécial, qui aillent des propriétés un peu intéressantes, disons.
Et vous dites pourquoi on utilise autant dans l'industrie, c'est parce qu'on peut faire des formes incroyables avec, quoi. On peut faire toutes les formes qu'on a envie presque.
C'est ça, donc c'est un produit qui est très versatile, donc les composites sont utilisés dans tous les domaines où on a besoin de quelque chose qui est performant, mais qui est aussi très léger, donc dans l'aéronautique, dans les bateaux, dans tout ce qui est équipement de sport, donc on a des pièces d'avion qui sont faites avec ça, on a des bateaux, on a tout ce qui est skateboard.
Et puis ça peut être de très grandes tailles différentes, ça peut être des tailles assez grandes qui font la taille d'une pièce entière, ou ça peut être des pièces qui font quelques millimètres ou centimètres, quoi.
Justement, comme on disait, de petits équipements de sport, mais même d'ailes d'avion ou de pales d'éolien, donc des tailles très différentes, ouais.
Alors, je me retourne vers Eleonore, ma compère dans les études de durabilité, la spécialiste durabilité, la sustainability manager, comme tu l'as dit, de Compère. Donc, justement, Cecilia, bon, je dis Cecilia, c'est la française, mais en italien, c'est Cecilia, parlait justement de l'importance de comment c'était un composite, de ce que c'était. Quels sont aujourd'hui les enjeux environnementaux autour de ces composites? Pourquoi est-ce qu'il faut développer des solutions innovantes là-dessus? Quels sont les soucis qu'on peut trouver aujourd'hui dans l'industrie? Pourquoi c'est un enjeu environnemental important, on va dire?
Donc le gros problème des composites, c'est qu'ils sont très sensibles aux endommagements. On pourrait les réparer, mais aujourd'hui, les techniques actuelles, c'est très compliqué. Il faut faire tout un travail de ponçage, il faut remplacer la matière par un nouvel apport de matière, et tout ça, ça crée énormément de déchets. Au lieu de les réparer, on peut aussi les jeter et les refaire. Le challenge, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas très bien recycler les composites. On sait très bien le faire, par exemple, pour l'aluminium ou le PET, mais pas pour les composites. Et donc voilà, on n'a pas une économie circulaire des composites à l'heure actuelle.
Intéressant, c'est qu'Ampère, justement, vous voulez faire pour un type de composite, justement, ces composites polymères ou résines avec tissu, notamment, ce qu'on a, j'ai eu la chance de voir en amont de ce podcast dans votre atelier à côté de vos locaux. Justement, ce que vous voulez faire, c'est faire qu'il y a une économie circulaire, que ces composites soient circulaires et qu'on ait besoin de moins d'apport d'énergie et de matière pour les réparer et les réutiliser, en fait.
Voilà, et en fait, je pense qu'il est important à retenir, c'est que le recyclage, c'est bien, et c'est bien en fin de vie d'une pièce. Mais au final, ce qui est le plus important, c'est de pouvoir réduire les déchets et garder les matériaux le plus longtemps possible dans la boucle. Et donc, grâce à notre technologie, on peut prolonger la durée de vie des composites.
Alors justement, on va s'intéresser à cette technologie. Du coup, Cécilia, tu vas pouvoir prendre le micro. Alors, comment ça fonctionne? Quelle est la technologie que vous avez développée? Robin, nous avez parlé justement des recherches qui avaient été faites. Comment ça fonctionne, cette technologie qu'on perd? Donc, par exemple, s'il y a une fissure au sein d'une de vos plaques, de vos matériaux, moi, j'ai pu faire, expliquer un peu, parce que moi, j'ai pu faire l'expérience. C'est assez incroyable. Vous l'avez montré, mais je le dis en toute transparence, ils m'ont fait la démonstration, j'ai pu la faire moi-même dans leur laboratoire. Mais explique-nous comment ça fonctionne d'un point de vue technologique, la solution Compère.
Donc, comme on l'a dit, les matériaux composites, c'est une combinaison de deux matériaux. Et une des associations la plus commune, c'est laquelle entre donc, un polymère, une matière plastique, qu'on appelle aussi résine ou matrice, et des fibres. Le type de polymère qui est le plus souvent utilisé, c'est un polymère qu'on appelle thermodurcissable. C'est une classe, un type de polymère qui est très souvent choisi parce que c'est très résistant, c'est très performant, mais ça a une limitation, c'est-à-dire c'est très sensible aux endommagements, et donc quand il y a...
C'est très cassant.
C'est ça. Donc, dès que ça commence à casser, ça va se casser complètement.
Parce que vous dites, c'est des matériaux qui peuvent être utilisés dans l'aviation, et c'est vrai que dès qu'il y a un impact, forcément il y a des normes de sécurité qui sont très élevées, et donc on cherche pour réparer. Donc il y a des avantages et des problèmes avec les matériaux thermodurcissables, c'est ce que tu disais. Ouais.
C'est ça. Donc justement, comme tu disais, dans l'industrie aéronautique, s'il y a même un petit défaut, c'est critique parce qu'il va grandir, juste à amener la pièce à se casser en deux. Et donc, carrément, dans tout ce qui est aéronautique, c'est très critique. Et donc, c'est justement à cette problématique que Compère a envie de répondre, d'amener une solution. Et donc, ce qui a été développé, c'est une résine, donc une matrice qui a une chimie spéciale, qui fait que, justement, si on a des endommagements qui arrivent au niveau de la matrice, donc une fissure, si on apporte de la chaleur, donc entre 100 et 150 degrés, c'est la fenêtre de température idéale, on va activer un agent réparateur qui va pouvoir boucher la fissure et permettent de récupérer 100% de propriétés mécaniques.
Donc c'est ça la principale valeur ajoutée, c'est-à-dire vous avez à l'intérieur un agent réparateur, vous avez une cure, et quand vous la chauffez, bah moi j'ai vu la démonstration que Eleanor avait faite, c'est-à-dire où on prend un pistolet chauffant, ou on met dans un four, ou voilà, on chauffe la pièce à 100 et quelques degrés, et en fait ça permet de réparer complètement la pièce. Quoi.
C'est assez
bluffant quand on voit. Alors la question c'est jusqu'à où on peut réparer ? Parce que quelle est la limite actuelle ? Parce qu'effectivement, un petit impact comme moi j'ai fait, j'ai pris une boule de pétanque, je l'ai lâché depuis à ma hauteur jusque sur la plaque, il y a eu un impact dessus, en quelques minutes il était réparé. Là, en gros, jusqu'à où on peut réparer ? J'imagine que si la pièce est complètement pétée en deux, on ne peut rien faire. Quoi.
C'est clair, justement. Donc, ce qui est important à retenir, c'est qu'on va pouvoir réparer tout ce qui est endommagement dans la matrice, donc dans la partie polymère, et pas tout ce qui est endommagement aux fibres, mais c'est une limitation jusqu'à un certain point, dans le sens que la plupart des endommagements commencent avec un endommagement dans la matrice. Et c'est ça qui va petit à petit grandir, devenir critique et amener à la rupture de la pièce. Donc si on est capable de pouvoir réparer ce type d'endommagement, ce type de défaut, on va pouvoir prévenir des ruptures catastrophiques et faire de la maintenance préventive et vraiment allonger prolonger la vie de la pièce.
Est-ce que c'est juste si je fais la comparaison avec la glace ? C'est-à-dire qu'on mâche sur de la glace, il va y avoir des fissures à l'intérieur de la glace, et au moment, on va avoir des fissures à l'intérieur, mais la glace, on va continuer à marcher dessus, et un jour, la plaque de glace, elle va se péter, parce qu'il y aura suffisamment de fissures à l'intérieur. C'est un peu pareil pour les composites ?
On peut l'imaginer un peu comme ça. Donc, comme s'il y avait des petites fissures internes qui commencent, et nous, ce qu'on a envie de faire, c'est les bloquer tout d'abord. Donc, même plus, pas vraiment les bloquer, mais les réparer afin qu'ils ne soient plus là.
Et que ça vient comme neuf, et donc ce que tu dis, c'est qu'avec vos solutions, vous récupérez 100% de... Donc c'est comme s'il était neuf en fait.
Exactement. Et la beauté c'est aussi qu'on peut le faire plusieurs fois. Donc on l'a démontré jusqu'à 60 fois de la suite sur la même pièce. Et on peut le faire donc in situ, sans besoin de modifier quoi que ce soit dans la pièce, parce que, disons, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est en matière plastique, mais si on chauffe, elle ne va pas devenir coulante, elle ne va pas perdre ses performances. On peut vraiment la garder où elle est et pas la remettre dans un moule.
Ça c'est un énorme avantage. Et donc, du coup, la question que j'ai envie de poser à Eleanor tout de suite, est-ce qu'on a une idée à peu près de, sur une pièce normale, enfin sur un certain volume, hein, j'imagine que les tests, les évaluations ont été faites et que tu bosses dessus, est-ce qu'on a une idée de ce qu'on arrive à économiser, que ce processus un peu magique, bon c'est pas magique, c'est de la science, mais est-ce qu'on a une idée de ce qu'on arrive un peu à économiser en disant on arrive à refaire, réparer 50 fois ou 60 fois une pièce au lieu de qu'elle se dégrade, est-ce qu'on a une idée à peu près de ce qu'on arrive à économiser pour l'environnement ou au contraire c'est plus dans le fond mais on n'a pas encore de chiffres vraiment à sortir, ou est-ce qu'au contraire t'as pu un peu te rendre compte de ce qu'on arrivait à économiser en termes de ressources, en termes d'énergie, en termes de...
Alors on a commencé à faire un travail là-dessus, par contre c'est difficile.
Je rappelle l'entreprise à peine 3 ans donc du coup, c'est compliqué.
Nous, on a déjà commencé à travailler justement sur cette quantification de l'impact environnemental. C'est d'ailleurs une partie de mon travail de faire des analyses de cycle de vie. Par contre, c'est difficile de prédire le nombre de réparations qu'une pièce va subir dans son cycle de vie. Et c'est pour ça que c'est important de voir vraiment au cas par cas. Un ski ne va pas avoir le même impact environnemental qu'une pale d'éolienne. Par contre, on va pouvoir essayer de faire un breakdown des différentes étapes du cycle de vie pour voir que la partie de l'extraction des matériaux et de la phase de production, c'est en général la plus impactante pour les composites. Et donc, c'est pour ça que si on jette une pièce et qu'on doit la reproduire, l'impact sera très grand.
Dans la phase de conception, qu'on a des énormes économies, parce qu'il n'y a pas besoin de refaire la pièce, voilà. C'est énorme. Et puis, il y a une chose, c'est que on doit chauffer. Est-ce qu'on arrive à quantifier justement cet impact de devoir chauffer ces plastiques
Avec notre technologie, la réparation se fait en une minute. À 100 degrés. Donc en fait,
je témoigne, je l'ai vu. J'étais là, vous pouvez dire, c'est pas du mensonge, j'étais là, je peux le garantir, j'étais à côté, j'ai vu la réparation alors que j'avais fait une mini fracture à l'intérieur.
L'énergie utilisée pour réparer nos pièces, c'est une minute d'électricité en fait. Donc c'est rien par rapport à des heures.
C'est comme quand on se feune à la maison, quoi.
Exactement, c'est comme avec un feune à la maison, voilà, juste quelques minutes et ça suffit pour réparer la pièce. Contrairement à toute l'énergie des matières premières qu'on aurait besoin pour reproduire une pièce, en fait.
Plus grand, parce que dans un moment, il y a l'aspect textile, parce que forcément il y a la production de textile, mais également surtout la production de polymères, on sait que c'est un problème.
Mais là aussi on a d'autres projets, donc par exemple, pour l'instant notre première famille de produits, on utilise des composants pétro-sourcés, mais pour les prochaines, on est en train de travailler sur l'incorporation de composants biosourcés ou de matières végétales.
Le textile et la résine, le plastique, en fait, totalement biosourcés. Et donc, du coup, voilà, bien, non seulement... Et puis après, est-ce que vous arrivez à faire que ce soit réparable aussi, quoi ?
Alors, c'est le but, bien évidemment.
Est-ce que ça va être très difficile ou au contraire, ça va se faire relativement facilement, le fait de pouvoir passer de composites thermodurcissables d'origine pétrochimique à des origines biosourcées, ce qui est l'avenir, mais qui n'est pas encore actuellement, mais est-ce que ça va être très compliqué ? Ben ça, ce serait vraiment l'idéal. C'est-à-dire qu'on n'aurait que des produits issus de production durable, et en plus, ils sont réparables, donc ce serait vraiment l'idéal.
Pouvoir adapter le système et la recette chimie vraiment qu'on a dans notre matière, dans notre polymère, c'est le cœur de métier de Compère. Donc c'est notre savoir-faire de pouvoir adapter la recette pour pouvoir répondre aux besoins des clients et à nos besoins, donc aux besoins de l'environnement, et etc.
On est d'accord pour dire que c'est le message que, au fait, pour pas passer aux auditeurs, s'il y a un message à faire à venir, c'est que c'est mieux d'avoir quelque chose peut-être qui est avec pétro-sourcé à la base ou qui a pas mal d'impact au niveau matière première, mais qu'on peut réparer et qu'on peut réutiliser pas à l'infini, mais en tout cas très longtemps et qu'on peut facilement réparer, plutôt que d'avoir quelque chose de peut-être de biosourcé à la base et d'avoir quelque chose de fait de manière très durable dans la matière première, mais qu'on peut pas très bien réparé et donc on doit remplacer de manière assez régulière ou quand un incident arrive. C'est, au niveau de l'impact, on est d'accord, c'est plus intéressant d'avoir quelque chose qui est peut-être pas top à la production, mais qui est réparable à souhait.
Oui, alors il faut bien commencer quelque part. Et bah, nous, on a commencé par là. Et donc, par exemple, donc, notre résine, on peut l'associer avec n'importe quel type de fibre standard, par exemple des fibres de carbone. On en retrouve dans les vélos, dans les pièces d'avion, par exemple. Par contre, on sait que ces fibres de carbone sont très impactantes au niveau écologique. Et c'est pour ça qu'on a commencé également à travailler sur des projets pour substituer ces fibres de carbone par des fibres de carbone recyclées. Et donc là, on sait que les fibres recyclées ont environ 10 fois moins d'impact environnemental que les fibres vierges.
Et puis justement d'avoir aussi des fibres qui sont le plus local aussi possible, enfin qui ne viennent pas de la forêt équatoriale ou je sais pas où. Là effectivement ça diminue aussi l'impact à la production du composite, quoi.
Oui, on essaye toujours de travailler avec des fournisseurs et des partenaires le plus local possible. Donc la plupart de nos fournisseurs sont en Europe.
Ça c'est une très bonne nouvelle. Alors au niveau, je vais maintenir la question, au niveau à peu près, vous êtes en train de travailler sur... On parle de quel volume actuellement, on parlera du marché plus tard justement pour ce type de produit avec Robin. Mais Eleanor, justement sur en termes de volume, on est sur à peu près quel volume actuellement sur Compère quand... Et puis après l'idée aussi d'atteindre un certain nombre de volumes, parce que vous êtes en train justement de faire les démarches pour vous implémenter avec différents partenaires industriels, des gens qui produisent des choses. Actuellement, ça représente quel impact Compère au niveau du volume ?
Actuellement, on travaille avec une vingtaine de clients en implémentation.
C'est déjà pas mal.
Et pour vous donner une idée, on serait capable de produire environ 1,5 million de paires de skis par année.
Ouais, bah c'est une très bonne image, comme ça les gens s'aperçoivent. C'est une excellente image, 1,5 million de paires de skis par année. Les paires de skis qui sont également un composite, mais alors, c'est pas du textile, c'est que du bois. Mais qui sont un composite également, polymère, bois...
Alors dans les skis, il y a une partie composite qui, par exemple, pourrait utiliser des fibres de verre. On le sait pas forcément, mais c'est pas forcément que du bois. Il y a une partie composite, justement, qui associe la résine avec des fibres, ça pourrait être des fibres de verre, de carbone, de lin.
Est-ce qu'on pourrait utiliser, est-ce que un jour, moi, je pourrais venir avec mon feu et réparer mes skis avec cette solution-là ou pas ?
Pourquoi pas ? Ça serait tout à fait possible.
Est-ce que actuellement, vous avez des partenariats est-ce que vous étiez développé des choses avec des marques qui font des petits outils de sport ? Donc, on parlait de skateboard, de snowboard, de ski, tout ce qui sert de la glisse, où il y a besoin d'avoir des composites pour glisser dessus. Est-ce que vous travaillez actuellement avec ce genre d'entreprise ?
Bah donc, le marché de sport... sport et loisirs, c'est l'industrie qu'on vise principalement. Et donc, les 20 clients qui ont été mentionnés sont justement dans ce cadre-là. Donc, on travaille avec de gens du sport pour pouvoir développer des produits avec eux.
Est-ce que je peux arriver un jour avec ma planche ou mon ski qui est partenariat Compère avec un autre fournisseur qui fabrique justement le produit en question et dire j'arrive avec mon... Ah, mais il y a un impact, ça m'embête un peu. C'est comme quand je fais la résine sous les skis pour que ça glisse bien, etc., avec mon feu. fun, est-ce que je peux arriver avec mon fun et dire je vais funer mon truc pendant 2 minutes et ma résine va se reconstituer?
Bah, je pense que sur notre site, vous pouvez voir exactement un vidéo qui démontre ça. Donc, quand on a démontré qu'avec nos produits, on peut, disons, faire des pièces, construire des pièces, un surf, c'est justement une des premières pièces qu'on a construit. Et donc, on voit vraiment que s'il y a des impacts qui arrivent, on peut tout simplement prendre un fun, un sèche-cheveux, chauffer, et le surf va être comme nouveau.
Vous pouvez voir, parce que le lien pour la vidéo et le site, justement, est en lien de description, évidemment, de ce podcast, donc si vous êtes intéressé, parce qu'une bonne démonstration, une belle image vaut mieux que 1000 mots, donc évidemment, vous pouvez évidemment aller cliquer pour aller voir à la fin de ce podcast ou maintenant, si vous êtes intéressé. Il y avait aussi un enjeu qui est intéressant, c'est, ok, je vois bien comment c'est facile sur une petite plaque, un petit objet, mais quand c'est quelque chose de plus grand, c'est quoi les principaux défis qu'il y a en termes de développement de technologie, je l'ai vu dans l'atelier, je vois bien pour une plaque ou pour la taille d'un ski, mais quand c'est des choses plus grosses, j'imagine qu'il y a d'autres difficultés qui se posent.
Il va falloir trouver cet endommagement, donc souvent dans tout
la détection.
Exactement. Donc souvent, ce qui est fait dans l'industrie éolienne et aéronautique, c'est utiliser des techniques non destructives, des analyses pour trouver ces endommagements. Et après, donc, si ces pièces vont être construites avec le matériau qu'on perd, on va pouvoir les réparer localement. Donc une fois qu'on a trouvé les défauts, on peut les réparer.
Mais ça, j'imagine, la détection, c'est un des principaux. Qu'est-ce qu'on utilise pour faire la détection de ce genre? Des lumières, des UV, je ne sais pas. Voilà. Comment est-ce qu'on détecte ça? Enfin, quels sont les outils nécessaires pour détecter ce genre de défauts?
Alors, je dirais que ça dépend beaucoup de types de pièces et aussi du budget qu'il y a derrière pour pouvoir faire cette analyse. Donc, si on parle du verre, on peut souvent voir l'endommagement. Si on parle du carbon, donc, il va falloir d'autres types d'analyses, d'autres types de méthodes. Donc, ce qui est souvent utilisé dans l'industrie, c'est des systèmes ultrasound qui vont donc pouvoir scanner la pièce avec des ondes sonores et pouvoir détecter des endommagements. Mais justement, c'est une technique qui est chère.
Qui n'est pas à portée du premier venu, quoi.
Voilà, donc typiquement, dans tout ce qui est aéronautique, c'est une pratique commune, mais peut-être pas pour le surf de la maison.
Du coup, je vais poser la prochaine question à Eleanor, puisqu'on est dans les problématiques et les défis. On a déjà évoqué quelques pistes, mais quelles sont les principales problématiques, notamment par rapport à l'impact environnemental et même au développement du produit? Quelles sont les principales difficultés que actuellement vous rencontrez, parce que vous êtes au début, au milieu de ce processus d'implémentation, de fait de convaincre les clients? Quelles sont les principales difficultés aujourd'hui, des défis qui seraient principaux à relever par rapport à ce que vous développez à Compair?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le temps pour implémenter un nouveau matériau dans l'industrie, il est très long. Ça peut prendre plusieurs années. Donc, on travaille avec plusieurs clients, mais pour savoir concrètement quel sera l'impact environnemental dans plusieurs années, on n'a pas la réponse aujourd'hui, malheureusement. Et c'est pour ça qu'on essaie de faire des cas d'études pour essayer de prédire, on fait des hypothèses pour essayer de prédire quels seront les bénéfices en termes d'impact.
Quels sont les cas pratiques sur lesquels vous travaillez en ce moment, des exemples pour qu'on se rende compte?
Donc, le but final, ce serait de pouvoir faire l'analyse de cycle de vie de la pièce, depuis une pièce composite, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à sa fin de vie. On va commencer étape par étape. Et la première phase, c'est de pouvoir dire les étapes, voir les phases de production et d'extraction des matières premières. Donc, pour nous, là, on travaille sur la quantification de la production d'un kilo de notre résine, en fait, pour la comparer avec d'autres résines standards sur le marché.
Compte quoi, à peu près, un kilo de résine, pas seulement en volume, mais aussi en termes d'impact environnemental, quand on fait ça, ça représente à peu près quoi pour produire? Parce que les gens ne se rendent pas compte, ils disent, un kilo de pain, je vois à peu près ce qu'il faut comme taille de farine, un kilo de vêtements, je vois à peu près le sac qu'on a à la maison quand on rentre. Mais un kilo de résine, ça représente à peu près quoi en termes d'impact environnemental? Est-ce qu'il faut beaucoup exploiter? Au contraire, c'est quelque chose de très simple, quelque chose qui n'a pas énormément d'impact, et puis on peut faire des kilos et des kilos avant que c'est un gros impact.
Alors si on compare aux fibres de carbone, par exemple, l'impact sera beaucoup plus faible. Pour un composite carbone polymère, les fibres de carbone auront un beaucoup plus grand impact que la partie résine.
Fibres de carbone, d'ailleurs, qu'on utilise beaucoup dans les vélos.
Exactement.
Pour les rendre les plus légers possible.
Voilà.
Donc, du coup, c'est déjà pas mal. Et puis, donc, un des enjeux, c'est aussi de rendre cette solution encore plus durable possible. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de points qu'on peut améliorer, c'est-à-dire d'avoir que des choses biosourcées. Voilà, mais ça, c'est aussi un enjeu qu'il y a sur Terre. Et aussi d'étudier, c'est intéressant de savoir si vraiment c'est un impact mieux ou au contraire, le gain est tellement faible que ça vaut pas la peine de se tracasser de là-dessus, quoi.
Mais dans tous les cas, on le sait déjà, c'est dur de le quantifier, mais on sait que le plus grand impact, c'est de prolonger la durée de vie des produits, voilà, pour préserver les ressources. Parce qu'au final, le déchet qui pollue le moins, c'est celui qu'on n'a pas produit.
Quelles sont un peu les perspectives qu'il y a actuellement, sur quoi vous travaillez, et puis qu'est-ce que vous avez des projets qui sont un peu dans les tuyaux, vu que je parle au responsable de R&D, j'imagine qu'il y a pas mal de choses qui doivent passer par la tête, quoi.
Alors, il y a pas mal de tuyaux, pas mal de projets en perspective. Le cœur de métier, c'est vraiment de développer des matériaux composites cicatrisants, et on a besoin de répondre un besoin du marché qui est assez spécifique en termes de mise en œuvre. On ne les met pas tous en œuvre la même chose. Et pour pouvoir amener à nos clients des produits avec lesquels ils puissent travailler, on est obligé de développer ce qu'on appelle des nouvelles familles de produits, c'est-à-dire des choses qui cuisent par exemple à une température différente, etc. Et c'est notre cœur de métier de développer ces systèmes-là pour que ça reste des composites, c'est-à-dire des matériaux solides et légers qui ont cette capacité de cicatrisation.
D'accord, et puis la dernière question que j'aurais pour toi, Robin, c'est justement que ce marché, c'est vraiment quelque chose de facile à venir dedans. Est-ce que c'est un truc ouvert ou est-ce qu'il y a une vraie demande là-dedans, ou au contraire, c'est quelque chose de neuf et puis il faut se faire un peu la place, il faut convaincre des gens de dire « mais regardez comment ça fonctionne, tout ce qu'on a décrit tout au long du podcast, comment ça fonctionne ». Est-ce que c'est quelque chose de facile en termes de perspective, en termes de développement? Est-ce que le marché en Suisse et même à l'international, il existe?
Alors, le marché existe, rien que la réparation des composites est un marché de 22 milliards par année. Donc, c'est un assez gros marché. L'industrie composite elle-même, c'est 100 milliards par an. Donc, c'est un gros marché. Le marché, il est là. Après, on est au niveau des matériaux. Donc, il faut savoir que pour n'importe lequel de nos clients, les propriétés intrinsèques du produit qu'il va vendre sont liées à ce que nous, on va lui fournir. Et donc, forcément, ça fait qu'on a des cycles de vente qui sont relativement lents, étant donné que la crédibilité, on va dire, de nos clients qui passent par leurs produits peut être mise en jeu en incorporant des matériaux qui sont nouveaux.
Quels sont, au terme de recherche, quelles sont les perspectives sur les matériaux qui sont réclamés? Est-ce que ça va être complètement l'implémentation ou est-ce qu'il y a des nouveaux projets qui sont en recherche? Vraiment sur la partie composant, quoi.
Ouais, bah donc...
La partie recette, la partie cuisine.
Ouais, exactement. C'est vraiment de la cuisine. Donc, ce qu'on fait tous les jours comme activité dans le département R&D, c'est vraiment développer de nouvelles familles de produits. Donc, on va pouvoir adapter cette recette pour amener cette capacité de cicatrisation sur différents systèmes. Et donc, parce que typiquement, la recette qu'il faut pour pouvoir produire tout ce qui est produit de sport, tout ce qui est pièces de sport, c'est pas exactement la même chose que ce qu'on va utiliser pour produire une aile d'avion ou une pale de lien ou autre pièce. Donc, selon l'application qu'on vise, selon les besoins du client, selon l'industrie, on va avoir besoin de développer un système adapté. Et donc, c'est exactement ça sur quoi on travaille.
En guillemets, la bonne nouvelle, c'est qu'au moins, il y a du travail, quoi.
Ouais, ça c'est sûr. Je peux garantir ça.
Pour qu'on perde du travail. J'ai une dernière question pour Eleanor, comme ça, on va pouvoir conclure. Justement, dans quel secteur vous êtes, qu'on puisse avoir un peu un panorama, quels sont les secteurs sur lequel vous êtes le plus concerné, on va dire, avec la solution Compair?
Donc à court terme, ça serait le sport et les loisirs. Et à plus long terme, ça serait le secteur éolien, aéronautique et du spatial.
Pourquoi le spatial particulièrement? Parce qu'il y a aussi des composites pour être le... On a dit la question de vous êtes le plus léger possible. Justement, en étant le plus léger possible, ça économise aussi du carburant, du poids, enfin je sais pas.
Exactement, pour les avions et les bateaux par exemple, le fait d'utiliser des matériaux très légers, ça permet d'économiser de l'essence.
Avoir des matériaux légers et qui en plus sont réparables, c'est
encore mieux.
Le plus dur possible. Donc, tout ce qui est loisirs, transport, éolien, tout ce qui utilise des composites quelque part, on peut développer des solutions de recherche là-dessus, quoi. Eleanor Tichia, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions aujourd'hui.
Merci, c'était un plaisir d'être là.
Ouais, pareillement pour moi, c'était vraiment un plaisir.
Merci beaucoup Robin d'avoir répondu à la question puis d'être passé dans le podcast.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Merci, alors je rappelle que vous avez évidemment le site de l'entreprise Compair qui est en description de ce podcast, que si vous êtes intéressé par ce sujet, vous voulez faire partager cette solution à des gens qui seraient des entrepreneurs, des gens qui seraient intéressés, vous pouvez évidemment partager ce podcast et le diffuser sur les réseaux. En attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, c'était un très bon, en plus on a parlé de différents objets qu'on peut recevoir à Noël. Noël, je sais pas, un nouveau ski, un nouveau snowboard, voilà, choses comme ça. Donc il y avait un lien en tout cas avec cette thématique. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis ben, je vous retrouve en 2023 pour de nouveaux podcasts sur Radio Libre. En attendant, ben, voilà, je vous souhaite d'excellentes fêtes, une excellente fin de semaine. Et puis ben, toujours restez toujours alerte. N'hésitez pas également à me proposer des sujets, soit des entreprises, soit des initiatives individuelles ou personnelles qui sont intéressantes par rapport à la durabilité.